À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans cette rubrique L'auteur caché, vous connaissez la règle du jeu. Je vous donne 10 indices. Le comédien Fernand Guillot vous lit 10 lignes d'extrait de notre auteur caché, 10 lignes ou un tout petit peu plus. Et en moins de 10 minutes, vous allez découvrir de quel auteur il s'agit. Et rassurez-vous, c'est un grand classique de la littérature française qui, bien sûr, fut académicien. Vous êtes prêts ? À vous de jouer. Voici les 10 indices sur la vie de cet académicien. Premier indice, notre auteur ne fut pas seulement membre de l'Académie française, élu en 1691, il appartenait également à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais surtout, il fut le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, fonction qu'il exerça durant 42 ans à partir de 1699. Il rédigera d'ailleurs une histoire et des mémoires de l'Académie et fera l'éloge de savants tels que Cassini, Leibniz, Newton et bien d'autres encore. Deuxième indice, notre auteur était le neveu des Corneille, de Pierre, le tragédien de l'Académie française, et de Thomas, le scientifique de l'Académie des sciences, puis de l'Académie française. Notre auteur commença sa carrière par écrire des poésies, comme tout le monde, et même des opéras et des tragédies, mais c'est comme savant qu'il est surtout renommé. Se consacrer aux questions scientifiques ne l'a pas empêché de rédiger une vie de Corneille. Troisième indice, bien sûr, en évoquant les Corneilles, le siècle de notre auteur caché vous devient évident. Et d'ailleurs, il est né à Rouen en 1657 et il vivra centenaire, c'est l'un des centenaires de l'Académie française, puisqu'il mourra en 1757, juste un mois avant d'avoir 100 ans. Quatrième indice, il est temps maintenant de laisser la parole à notre auteur et de lire un passage de son « Histoire des oracles », dans lesquels, en véritable scientifique du XVIIIe, il discrédite la croyance dans le surnaturel. Pour lui, il faut d'abord s'assurer des faits avant de crier au miracle. L'anecdote de la dent d'or vous permet de comprendre son raisonnement. Voici la lecture par Fernand Guillot.
« Assurons-nous du fait avant que de nous inquiéter de la cause ». Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans, il lui en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Orsius, professeur en médecine dans l'université de Helmstadt, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historien, Rolandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, un autre savant écrit contre le sentiment de Rolandus, lequel fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit de la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai, que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examinée, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse. Mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l'orfèvre.
Cinquième indice, vous l'avez compris, notre auteur prône une approche scientifique des faits. Donc, point de superstition, rien qu'un esprit a priori sceptique. notre auteur veut éveiller chez ses contemporains le sens critique. Sixième indice, il utilise ce même esprit scientifique à propos de la question du système solaire et de l'hypothèse d'autres planètes habitées. C'est pourquoi il rédige son grand œuvre, Les Entretiens sur la pluralité des mondes, en 1686. Septième indice, et l'inévitable question se pose, irons-nous un jour dans la Lune ? Cette interrogation fait l'objet d'un entretien qu'il imagine entre lui, le scientifique, et une belle marquise qu'il invite chaque soir, durant 6 soirs, dans un parc pour admirer le ciel et les planètes. Le second soir fait l'objet d'un dialogue savoureux.
« Ces gens de la Lune, reprit-elle, on ne les connaîtra jamais. Cela est désespérant. » « Si je vous répondais sérieusement, répliquai-je, vous vous moqueriez de moi. Mais j'ai une pensée très ridicule qui a un air de vraisemblance qui me surprend. Je gage que je vais vous réduire à avouer, contre toute raison, qu'il pourra y avoir un jour du commerce entre la Terre et la Lune. L'art de voler ne fait encore que de naître. Il se perfectionnera. » Et quelques jours, on ira jusqu'à la Lune. Prétendons-nous avoir découvert toutes choses ou les avoir mises à un point qu'on n'y puisse rien ajouter ? Eh bien, de grâce, consentons qu'il y ait encore quelque chose à faire pour les siècles à venir.
Huitième indice, vous le voyez, notre auteur s'attache à développer la vulgarisation scientifique. Il veut toucher aux plus grands problèmes humains, mais avec l'esprit critique, celui qui dresse les principes d'une science positive et expérimentale. Ses entretiens sur la pluralité des mondes, comme son histoire des oracles, vont le rendre célèbre. Avouez qu'il est d'ailleurs un peu prophète, notre auteur, et qu'il pressent bien à l'avance des progrès techniques qui ne verront le jour qu'un siècle ou deux après lui. Neuvième indice, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, on l'a dit, notre auteur se consacre aux questions scientifiques et publie des préfaces d'ouvrages savants dans lesquelles il précise ce qu'est l'esprit scientifique. Il publie encore une géométrie de l'infini en 1727, ainsi qu'une théorie des tourbillons cartésiens avec une réflexion sur l'attraction en 1752. Enfin, dernier indice et dixième indice, le dernier, mais ce n'est pas le plus facile, il se prénommait Bernard. Mais on ne le nomme jamais que par son nom de famille, qui énoncé dans sa totalité, donne Bernard Le Bouillet de... Vous l'avez deviné ? Oui ? Non ? Bernard Le Bouillet de Fontenelle. C'est Fontenelle, le grand esprit, le grand savant, le bel esprit des lettres et des sciences qui faisait aujourd'hui, dans cette émission, notre auteur caché. Merci Fernand Guillot. À bientôt pour une autre émission.
Mais j'espère bien.